Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce Flash Info présenté par Quentin Kohls. Bonjour Quentin, après une journée ponctuée d'incertitudes, c'est finalement la proposition PS Écolo, soutenue par le PTB, qui est passée.
C'est un vote en commission, cela ne signifie donc pas que le décret est adopté. Pour ça, il faudra une séance plénière. Cela dit, la crise au sein de la majorité gouvernementale avec le MR est profonde. Cette majorité alternative autour du décret paysage va peut-être précipiter la chute du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y reviendra dans notre émission ce soir à 18h.
On reste à Bruxelles où se tient aujourd'hui le sommet européen.
Les leaders de l'Union européenne vont discuter de la situation en Ukraine. Les 27 pays membres cherchent à débloquer de nouveaux moyens d'aide pour Kiev. Des perturbations sont attendues dans le secteur. Au moins 8 personnes ont été tuées et 18 autres blessées ce matin dans une triple frappe russe à Tchernigiv. C'est ce que rapporte Oleksandr Lomako, le maire de la ville nord-ukrainienne, sur Telegram. Cette attaque intervient alors qu'un vote crucial a lieu aux États-Unis. C'est à nouveau l'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine qui est à l'ordre du jour. Chez nous, le Tech, la SNCB, la STIB et Delaine lancent conjointement une campagne pour sensibiliser aux agressions contre les agents des transports en commun. En 2023, ils ont recensé près de 6000 agressions physiques et morales. Le compte à rebours est lancé, J-100 avant les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et notre compatriote Elise Mertens a confirmé son absence aux Jeux. Elle justifie sa décision par un calendrier chargé et des pépins physiques.
Merci Quentin pour ce point d'information. Partons maintenant à la découverte de métiers pour le moins insolites. On vous en parlait hier, le festival Nourrir Liège organise une campagne de sensibilisation pour parler alimentation et politique, avec comme thématique principale la transition alimentaire. Prenons par exemple le fromage. À Liège, on connaît les fromageries qui fabriquent essentiellement le Herve, mais dans un coin plus reculé, il existe l'atelier du Sanson qui sait se distinguer par sa manière de fabriquer ce produit laitier. Enes Dridely est allé à la découverte de ce lieu.
Au sud de la province de Liège, installé dans la zone du Wex, du côté de Marchand-Famenne, se trouvent des fromages élevés dans des conditions pour le moins particulières. Ces conditions, Vincent Verleyen accepte de nous les dévoiler en ouvrant les portes de son atelier.
On se trouve à l'atelier de la fromagerie du Sanson et moi j'ai repris la fromagerie en 2011. Au départ, la fromagerie se situait à Gèves, dans la province de Namur, et puis on a pris un peu d'expansion, c'est devenu un peu trop petit comme endroit. Et donc en 2021, on a décidé de venir déménager ici à Marchand-Famenne et de créer un nouvel atelier avec des techniques d'affinage un peu particulières.
Mais avant d'arriver à ces techniques d'affinage, comme tout fromage, la réception du lait est la première étape. Et autant dire qu'à l'atelier du Sanson, cette phase possède déjà toute son importance.
On a plusieurs critères de sélection pour le lait. Il y a la qualité de l'alimentation, ça c'est primordial. Le deuxième critère, c'est la proximité. Donc on parle beaucoup de circuits courts. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on anticipait déjà depuis longtemps avant que ce soit dans l'air du temps, je vais dire.
Dans cet atelier, où on travaille spécialement au lait cru, ce n'est pas moins de 40 sortes de fromages qui sont fabriqués. Des sortes qui commencent à se développer dès la présence de ferments lors de la fabrication. Mais c'est bel et bien dans les 5 caves innovantes de l'atelier que ces derniers vont commencer à s'affiner pour s'affirmer.
Donc voilà, ici on est dans les caves d'affinage. Alors l'affinage, c'est une période très importante pour la qualité du fromage. Donc on a parlé tantôt de qualité du lait, ça représente à peu près 30% de la qualité du fromage. 30% vient de la fabrication proprement dite et le restant vient de l'affinage. Donc le principe, c'est que ce sont des caves qui sont voûtées, qui sont assez hautes pour permettre une circulation, une ventilation naturelle. Au-dessus des caves, il y a 1 mètre de terre qui permet d'avoir une isolation naturelle et une température constante.
Tôme, chèvre, bleu, plusieurs caves avec pour chacune une atmosphère différente pour un type de fromage différent. Tout cela se fait grâce à un système avec un liquide de refroidissement dans les murs. Un système ingénieux et peu coûteux en énergie.
Relativement peu énergivore du fait de l'accumulation du froid dans les murs, on consomme relativement peu d'énergie par rapport à ça.
Un système ingénieux et peu énergivore qui ne s'oppose pas à la philosophie de l'atelier du Sanson, à savoir le respect du cycle des saisons et le respect du développement du fromage. Une philosophie qui est le fil conducteur de la fabrication à la livraison, Car comme dit le patron,
c'est un peu nos bébés, et donc quand on doit les lâcher, c'est toujours un peu compliqué, donc on aime bien qu'ils soient aussi dans des endroits où ils seront mis en évidence.
Peut-être que ce fromage arrivera dans les mains d'un batelier sur une péniche. Derrière leur rythme paisible se cache toute une industrie qui assure la maintenance et le ravitaillement de ces géants. Thomas Radou a embarqué sur le Rescator, une véritable station-service flottante.
Il est 6h ce matin et il n'y a pas une mouette sur la Meuse. Seule une poignée de péniches glisse lentement vers Maastricht. Pas forcément une bonne nouvelle, me confie Brandon. La journée ne passera pas vite. Mais surtout, moins de trafic, c'est moins de clients. Un bateau, c'est comme une voiture, ça consomme. 400 tonnes de fuel par mois sortent des pompes de cette station-service située à Herstal. Il y en a 4 en Wallonie. Brandon y travaille 3 jours par semaine, de 6h du matin à 6h du soir. La station, en fait de péniches transformées en magasins, vend de tout. Des cordages, des litres de peinture et une tonne de produits d'entretien divers qu'on me détaille généreusement.
Le bateau vient à bord pour se ravitailler, en même temps aller dans le shop acheter du matériel et tout ça. Ou alors, en livraison quand les bateaux naviguent et alors on va ravitailler en naviguant. Voilà, on prépare les commandes aussi comme vous voyez ici, ça c'est déjà vendu aussi. Alors on prépare et soit qu'il vient à bord à la station ou il veut le petit bateau, alors on met tout ce petit bateau et on fait... Voilà,
donc, Et justement, une commande vient d'arriver. Nous allons ravitailler le Dragvold, amarré quelques kilomètres plus loin. À chaque départ, c'est toujours la même routine. Nous faisons le tour du bateau avant de démarrer. Ce vieux coucou en a vu des ailes, voilà plus de 50 ans qu'il sillonne la Meuse. Mon capitaine a certes 23 ans, mais il a le coup de main d'un vieux praticien. Dans la famille, on est batelier depuis 5 générations. Après une petite demi-heure de navigation, nous arrivons bord à bord. Pendant que le fuel coule à flot, je discute avec notre client.
Au départ, quand vous commencez, vous êtes niveau mousse, l'échelle le plus bas. D'abord, il faut aller soit à l'école, bateau-école, ou soit si vous êtes de la famille batelier, vous apprendre par la famille batelier. Ça dépend des versions. Comme moi, par exemple, je suis passé à la famille batelier. Alors, j'ai pris autant de jours pour travailler chez mes parents. Il y a beaucoup de jours à faire. Pour faire ça, pour être capitaine sûr, il faut faire minimum 600 jours de travail sûr.
Tant que nous sommes dans le coin, nous ravitaillons un autre bateau en eau. Son propriétaire navigue depuis toujours. Mais prochainement, il mettra le pied à terre et pour y rester. Un saut qui ne réjouit pas. Comment débarquer quand on a vécu toute sa vie sur l'eau? Nous rentrons à la station, mais la journée est loin d'être finie. C'est qu'un bateau, c'est surtout beaucoup, beaucoup d'entretien.
Il y a un peu d'entretien, un peu de mécanique, la paparasse, du ravitaillement, parce que dans une heure j'ai encore un bateau pour ravitailler aussi, qui va venir ici à bord, faire un peu de la peinture à l'extérieur, tout est prêt à mettre, mais ça fait 5 mois qu'il pleut.
Une après-midi de peinture n'attend que nous. C'est aussi ça, la vie de batelier.
Et si on a souvent l'habitude d'associer la pêche à une activité qui se pratique en bateau ou en bord de rive, plus original encore, la pêche aux crevettes à cheval. La première sortie en mer s'est déroulée le lundi 1er avril à Oosterkerk. Elle a attiré de nombreux touristes venus observer l'événement. Élodie Petitpas s'est rendue sur place.
Les sabots des chevaux frappent le sol. Ils tirent des charrettes en direction de la mer. À son tour, la foule se met en mouvement et suit ce cortège. Sur la plage, l'eau a fait des percées. Chacun essaie de trouver un moyen de rejoindre la mer sans se mouiller. Mais marcher dans l'eau semble inévitable. Une fille enlève ses chaussures et traverse l'eau pieds nus. Plus loin, un garçon prend de l'élan et saute au-dessus d'une percée plus étroite. Certains avaient prévu le coup en mettant des bottes, d'autres sont en chaussures de ville et finiront sans doute les pieds mouillés. Le temps d'atteindre la mer, les chevaux sont déchargés de leurs charrettes. Un filet de pêche est maintenant accroché à chaque cheval. Un homme sur leur dos, ils s'enfoncent dans l'eau les uns après les autres. Vêtus d'un imperméable jaune, de cuissardes et de bottes, des pêcheurs font des allers-retours le long du bord de mer. Ils sont munis d'une épuisette pour attraper des crevettes. Après une trentaine de minutes, les chevaux reviennent sur la plage. Les pêcheurs versent le contenu de leur filet dans un tamis. Ils secouent pour ne garder que les crevettes. Des enfants récupèrent les crabes et les poissons pour les remettre à la mer. Zoé fait partie de ces enfants.
Et quand ils sont revenus de la pêche, et ben, ils ont trié les crevettes avec les crabes et les poissons. Ils ont jeté tous les crabes et les poissons. Et comme il y avait des poissons qui restaient sur la plage mais qui étaient encore en vie, et ben moi et mon frère on les a jetés de nouveau dans la mer. Et il y avait aussi quelques crevettes dans la mer, alors on en a encore pêché avec notre petit filet.
Les mouettes sont de sortie et profitent de ces crustacés qui ont été rejetés dans l'eau. Les pêcheurs, eux, retournent sur la digue pour cuire les crevettes. Après une petite cuisson, la foule peut à son tour se régaler.
Moi, j'étais excellente.
Ah oui, c'est pas du tout les crevettes qu'on achète en commerce. Plus dur, c'est de les décortiquer.
La pêche aux crevettes à cheval, il s'agit d'une tradition familiale, comme l'explique Corinne, fille de pêcheur.
Je suis d'une famille de pêcheurs de crevettes. Mon grand-père, ma mère, mon oncle, mon père, mon mari. Et maintenant, mon beau-fils est aussi commencé en train de faire la pêche à crevettes avec les chevaux. Quand j'avais 15 ans, on avait 3 chevaux à ce moment-là et j'allais faire la pêche tous les jours avec mon grand-père et mon père.
Depuis 2013, la pêche aux crevettes à cheval est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Les femmes peuvent maintenant passer le test pour être reconnues comme pêcheuses de crevettes à cheval, ce qui n'était pas le cas avant.
Dans les années 80, je ne pouvais pas parce que j'étais une femme à ce moment-là, mais il a beaucoup changé entre-temps.
Après un verre pour célébrer leur première sortie, les pêcheurs repartent à bord de leur charrette. Ils feront des démonstrations jusqu'au mois d'octobre.
Et si ce ne sont pas des crevettes que vous voulez récolter, mais plutôt des jetons, direction le casino, oubliez les films de Martin Scorsese ou ceux avec James Bond, vous avez plus de chances de tomber sur des tables de jeux automatisées. Le métier de croupier est un des nombreux métiers menacés par l'automatisation. Antoine Ramet a poussé pour nous les portes du casino de Spa.
20, noir, vert, passe. Faites vos jeux.
Dans la ville de Spa, plusieurs options s'offrent à vous. Si vous voulez faire descendre la pression, montez, allez au terme de Spa, dans les hauteurs de la ville. Si vous avez le goût du risque, descendez dans le centre et allez au casino, là où la pression ne monte pas que pour les joueurs. Le métier de croupier n'est lui non plus pas épargné par l'automatisation des métiers. Cédric Brustenghi, croupier au casino de Spa, nous explique en quoi le métier de croupier peut être menacé.
Il y a de plus en plus de gens qui jouent aux machines ou alors aussi sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus besoin de bouger de chez eux.
Une automatisation qui se fait ressentir dans la quantité de l'effectif.
Avant, quand j'ai commencé, il y avait 40 employés par casino. Maintenant, on est 8. Ça diminue de plus en plus.
Le temps de formation est aussi un argument pour les gérants de casino. Si les croupiers peuvent être formés sur le tas, certains jeux demandent des formations plus longues.
Être croupier poker, ça va très vite. En un mois, on a appris le métier. Au blackjack, il faut 1 ou 2 mois, mais à la roulette, il faut 2 heures de pratique pour être un bon croupier.
Le poste de croupier à la roulette est sans doute le plus exigeant.
19, rouge, inter, as. Faites vos jeux.
Aujourd'hui, on peut donc retrouver les deux, les tables avec croupier et celles gérées électroniquement. Ces dernières sont totalement automatisées et ne requièrent pas toutes les qualités typiques du croupier de roulette.
Il faut apprendre déjà à manipuler les jetons et la boule de la main gauche et de la main droite de manière identique, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut être rapide, efficace. Et bon, pote, on n'est pas ambidextre à la base, donc il faut du temps et du travail. Alors il y a les mathématiques, il y a beaucoup de gros calculs, etc. Ça s'apprend aussi. Pousser des piles, il y a une façon, voilà, on va prendre 4 piles, 5 piles, on a des façons différentes de mettre nos doigts en fait. Au départ, moi j'ai commencé, je poussais mes piles et il y a tout qui tombait, je devais recommencer, je ramassais tout, et voilà.
Une des caractéristiques du croupier qui n'est peut-être assurée par la machine, c'est la gestion des clients. Le casino étant un lieu de grand stress, les esprits s'échauffent vite. Un parieur peut vite être emporté par sa victoire ou par sa défaite.
On a des gens qui perdent et c'est un petit peu difficile, ils sont pas toujours agréables. Il faut comprendre les gens aussi, il faut savoir encaisser un petit peu. Hein. Les gens, quand ils perdent, c'est pas au jeu qu'ils en veulent, c'est ou à eux, c'est à nous. Donc ça, c'est un des avantages.
Une difficulté qui a pu faire fuir plus d'un croupier.
Ta croupier arrête après 1 ou 2 mois, j'ai vu ça.
Rien ne va plus.
Afin de compenser le remplacement des croupiers, les casinos ont mis en place une prime de compensation. Mais pour Cédric, cette prime de quelques centaines d'euros n'est pas suffisante. Le métier, comme beaucoup d'autres, reste menacé par le remplacement. Reste à voir si les automates sauront encaisser la colère des joueurs frustrés.
De notre côté, nous sommes également frustrés de déjà devoir vous quitter. Mais pas de panique, rendez-vous à 18h pour votre magazine de l'information. Belle journée à tous sur 48FM.